Reprenons la lecture du roman Le crime d'Orcival d'Émile Gaboriau. Nous nous arrêterons au début du 7e chapitre. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.
Ce n'est rien encore, continuait Monsieur Lecoq. Passons au second matelas. On songe rarement au second matelas, quand pour des raisons quelconques on défait un lit ou qu'on cherche à en réparer le désordre. Examinez celui-ci. Il souleva le premier matelas et on vit en effet que la toile de l'autre était parfaitement tendue. On n'y découvrait aucun affaissement. « Ah, le second matelas !» murmura M. Lecoq. Et son nez pétilla, pour ainsi dire, au souvenir sans doute de quelque bonne histoire. « Il me paraît prouvé, » murmura le juge d'instruction, « que M. de Trémorel n'était pas couché. De plus, » ajouta le docteur Gendron, « si on l'eût assassiné dans son lit, ses vêtements seraient restés sur quelques meubles. Sans compter, fit négligemment Monsieur Lecoq, qu'on retrouvait sur les draps une goutte au moins de sang. Décidément, ces malfaiteurs-là ne sont pas forts. Depuis un moment, les yeux du père Plantin cherchaient ceux du juge d'instruction. Lorsque leurs regards à la fin se rencontrèrent, ce qui me paraît surprenant à moi, dit le vieux juge de paix, donnant par l'accentuation une valeur particulière à chaque mot, c'est qu'on soit parvenu à tuer chez lui, autrement que pendant son sommeil, un homme jeune et vigoureux comme l'était le comte Hector. Et dans une maison pleine d'armes, appuya le docteur Gendron, car le cabinet du comte est entièrement tapissé de fusils, d'épées, de couteaux de chasse. C'est un véritable arsenal. Hélas, soupira le bon monsieur Courtois, nous connaissons de pires catastrophes. L'audace des malfaiteurs croît en raison des convoitises, de bien-être, de dépenses, de luxe, des classes inférieures, dans les grands centres. Il n'est pas de semaine où les journaux... Il dut s'arrêter, non sans un vif mécontentement. On ne l'écoutait pas. On écoutait le père Plantin qui n'avait jamais vu si bavard et qui poursuivait. Le bouleversement de la maison vous paraît insensé. Eh bien, je suis surpris qu'il ne soit pas plus affreux encore. Je suis, autant dire, un vieillard. Je n'ai plus l'énergie physique d'un homme de 35 ans. Et pourtant, il me semble que si des assassins pénétraient chez moi, lorsque je suis encore debout, ils n'auraient pas raison de moi. Je ne sais ce que je ferais. Je serais tué probablement. Mais certainement, je réussirais à donner l'éveil. Je me défendrais, je crierais, j'ouvrirais les fenêtres, je mettrais le feu à la maison. Qu'eussiez-vous dit, justiciable d'Orcival, si vous eût été donné de voir l'animation, l'emportement de votre impassible juge de paix? Ajoutons, insista le docteur, qu'éveillé, il est difficile d'être surpris. Toujours quelque bruit insolite prévient, c'est une porte qui crie en tournant sur ses gonds, c'est une démarche de l'escalier qui craque. Si habile que soit un meurtrier, il ne foudroie pas sa victime. Il se peut, insinua M. Courtois, qu'on se soit servi d'armes à feu. Cela s'est vu. Vous êtes bien tranquillement assis dans votre chambre, on est en été, vos fenêtres sont ouvertes, vous causez avec votre femme tout en prenant une tasse de thé. Au dehors, les malfaiteurs se font la courte échelle. L'un d'eux arrive à la hauteur de l'appui de la fenêtre, il vous ajuste à son aise, il presse la détente, le coup part. Et, continua le docteur, tout le voisinage réveillé accourt. Permettez, permettez, riposta M. Courtois. À la ville, dans une cité populeuse, oui. Là, au milieu d'un vaste parc, non. Songez, docteur, à l'isolement de cette habitation. La plus voisine des maisons habitées est celle de Madame la comtesse de Lanascol. et encore est-elle distante de plus de 500 mètres, et par-dessus le marché, environné de grands arbres qui interceptent le son et s'opposent à sa propagation. Tentons l'expérience. Je vais, si vous le voulez, tirer un coup de pistolet ici dans cette chambre. Et je parie que vous n'entendrez pas la détonation dans le chemin. Le jour peut-être, mais la nuit. Si M. Courtois causait si longtemps, c'est que ses auditeurs observaient attentivement le juge d'instruction. Enfin, conclut M. Demigny, si contre tout espoir, Gaspin ne se décide pas à parler ce soir ou demain, le cadavre du comte nous donnera le mot de l'énigme. Oui, répondit le père Plantin, oui, si on le retrouve. Pendant cette discussion assez longue, M. Lecoq avait continué ses investigations. Soulevant les meubles, étudiant les fractures, interrogeant les moindres débris, comme s'ils eussent pu lui apprendre la vérité. Parfois, il sortait d'une trousse renfermant une loupe et divers instruments de forme bizarre, une tige d'acier recourbée vers le bout, qu'il introduisait et faisait jouer dans les serrures. Sur le tapis, il ramassa plusieurs clés, et sur un séchoir, il trouva une serviette qui devait lui offrir quelque chose de remarquable, car il la mit de côté. Il allait et venait de la chambre à coucher au cabinet du comte, sans perdre toutefois un mot de ce qui se disait, faisant bon profit de toutes les observations, recueillant et notant bien dans sa mémoire moins les phrases elles-mêmes que les intonations diverses qui les accentuaient. C'est que dans une instruction comme celle du crime d'Orcival, lorsque plusieurs délégués de la justice se trouvent en présence, ils se tiennent sur la réserve. Ils se savent tous presque également expérimentés, fins, perspicaces, pareillement intéressés à découvrir la vérité, peu disposés par habitude à se payer d'apparences trompeuses, difficiles à surprendre. Et la circonspection naturelle de chacun d'eux s'augmente de l'estime qu'il a pour la sagacité et la pénétration des autres. Il se peut que chacun d'eux donne aux faits révélés par l'enquête une interprétation différente. Il se peut que chacun d'eux ait sur le fond même de l'affaire un sentiment opposé. Un observateur superficiel ne s'apercevrait pas de ces divergences. Tout en dissimulant son intime pensée, chacun cherche à pénétrer celle du voisin et s'efforce, si elle est opposée, de ramener cet adversaire à son opinion, non en la lui découvrant franchement et sans embâge, mais en appelant son attention sur les motifs graves ou futiles qui l'ont fixé. L'énorme portée d'un seul mot justifie cette hésitation. Les hommes qui ont entre les mains la liberté et la vie des autres hommes, qui d'un trait de plume peuvent briser une existence, sentent bien plus durement qu'on ne croit le fardeau de leur responsabilité. Sentir ce fardeau partagé leur procure un ineffable soulagement. Voilà pour quelle raison personne n'ose prendre l'initiative, ni s'expliquer clairement pourquoi chacun attend l'émission positive d'une opinion pour l'adopter et l'approuver ou pour la combattre. Les interlocuteurs échangent donc bien moins des affirmations que des propositions. C'est par insinuation qu'on procède. De là, des phrases banales, des suppositions presque ridicules, des apartés qui sont comme une provocation à une explication. De là aussi, la presque impossibilité de donner la physionomie exacte et réelle d'une instruction difficile. Ainsi, dans cette affaire, le juge d'instruction et le père Plantin étaient loin d'être du même avis. Ils le savaient avant d'avoir échangé une parole. Mais M. Demigny, dont l'opinion reposait sur des faits matériels, sur des circonstances palpables et pour lui hors de toute discussion, était peu disposé à provoquer la contradiction. À quoi bon ? D'un autre côté, le père Plantin, dont le système semblait reposer uniquement sur des impressions, sur une série de déductions plus ou moins logiques, ne pouvait s'expliquer clairement sans une invitation positive et pressante. Son dernier mot, souligné avec affectation, n'ayant pas été relevé, il jugea qu'il s'était assez avancé, trop peut-être, aussi s'empressa-t-il pour détourner la conversation, de s'adresser à l'envoyé de la préfecture de police. « Eh bien, monsieur Lecoq, demanda-t-il, avez-vous recueilli quelques indices nouveaux ?» Monsieur Lecoq, en ce moment, regardait avec une persévérante attention un grand portrait de Monsieur le comte Hector de Trémorel, suspendu en face du lit. Sur l'interpellation du père Plantat, il se retourna. « Je n'ai rien trouvé de décisif, répondit-il, mais je n'ai rien trouvé non plus qui dérange mes prévisions. » Cependant, il n'acheva pas. Peut-être, lui aussi, reculait-il devant sa part de responsabilité. « Quoi ?» insista durement Monsieur Domini. « Je voulais dire, reprit Monsieur Lecoq, que je ne tiens pas parfaitement mon affaire. J'ai bien ma lanterne, et même une chandelle dans ma lanterne. Il ne manque plus qu'une allumette. « Soyez convenable, je vous prie, dit sévèrement le juge d'instruction. « Eh bien, continua Monsieur Lecoq d'un air et d'un ton trop humble pour n'être pas joué, j'hésite encore. J'ai besoin d'être aidé. Par exemple, si Monsieur le docteur daignait prendre la peine de procéder à l'examen du cadavre de Madame la comtesse de Trémorel, il me rendrait un grand service. « J'allais précisément vous adresser cette prière, mon cher docteur, dit Monsieur Domini à Monsieur Gendron. « Volontiers, répondit le vieux médecin, qui immédiatement se dirigea vers la porte. » Monsieur Lecoq l'arrêta par le bras. « Je me permettrai, observa-t-il d'un ton qui ne ressemblait en rien à celui qu'il avait eu jusqu'alors, je me permettrai d'appeler l'attention de monsieur le docteur sur les blessures faites à la tête de madame de Trémorel par un instrument contondant que je suppose être un marteau. J'ai étudié ces blessures, moi qui ne suis pas médecin, et elles m'ont paru suspectes. Et à moi aussi, dit vivement le père Plantat. Il m'a semblé qu'il n'y avait pas eu aux endroits atteints effusion de sang dans les vaisseaux cutanés. La nature de ces blessures, continua Monsieur Lecoq, sera un indice précieux qui me fixera complètement. Et comme il avait sur le cœur la brusquerie du juge d'instruction, il ajouta, innocente vengeance, c'est vous, monsieur le docteur, qui tenez l'allumette. Monsieur Gendron se disposait à sortir lorsque sur le seuil apparut le domestique de monsieur le maire d'Orcival, Baptiste, l'homme qu'on ne gronde pas. Il salua longuement et dit « Je viens chercher monsieur. Moi ?» demanda monsieur Courtois. « Pourquoi ? Qu'y a-t-il ? Ne saurait-on me laisser une minute en repos ? Vous répondrez que je suis occupé. » « C'est que, reprit le placide Baptiste, ces rapports à madame que nous avons cru devoir déranger monsieur. Elle n'est pas bien du tout, madame. » L'excellent maire pâlit légèrement. « Ma femme ! » s'écria-t-il sérieusement inquiet. « Que veux-tu dire ? Explique-toi donc. »« Eh bien voilà, » continua Baptiste, de l'air le plus tranquille du monde. « Le facteur arrive tout à l'heure avec le courrier. « Bon, je porte les lettres à madame, qui était dans le petit salon. « À peine avais-je tourné les talons, que j'entends un grand cri et comme le bruit d'une personne qui tombe à terre de son haut. » Baptiste s'exprimait lentement, mettant, on le sentait, un art infini à augmenter les angoisses de son maître. « Mais parle donc !» disait le maire exaspéré. « Parle, va donc !» « Naturellement, » poursuivit le drôle sans se hâter, « je rouvre la porte du petit salon. Qu'est-ce que je vois ? Madame étendue à terre. « Comme de juste, j'appelle au secours, la femme de chambre arrive, la cuisinière, les autres, et nous portons madame sur son lit. Il paraît, m'a dit Justine, que c'est une lettre de mademoiselle Laurence qui a mis madame dans cet état. » Le domestique qu'on ne gronde jamais était à battre. À chaque mot, il s'arrêtait, hésitait, cherchait. Ses yeux, démentant sa figure contrite, trahissaient l'extrême satisfaction qu'il ressentait d'un malheur survenu à son maître. Ce maître, hélas, était consterné, ainsi qu'il nous arrive à tous, quand nous ne savons au juste quel malheur va nous atteindre. Il tremblait d'interroger. Il restait là, anéanti, ne bougeant pas, se lamentant au lieu de courir. Le père Plantat profita de ce temps d'arrêt pour questionner le domestique, et avec un tel regard que le drôle n'osa pas tergiverser. « Comment ? » demanda-t-il. « Une lettre de mademoiselle Laurence ? Elle n'est donc pas ici ?» « Non, monsieur, elle est partie. Il y a eu hier 8 jours pour aller passer un mois chez une des sœurs de madame. »« Et comment va madame Courtois ?»« Mieux, monsieur, seulement elle pousse des cris à faire pitié. » L'infortuné mère s'était redressée sous le coup. Il saisit son domestique par le bras. « Mais viens donc, malheureux !» lui cria-t-il. « Viens donc !» et sortirent en courant. « Pauvre homme !» fit le juge d'instruction. « Sa fille est peut-être morte. » Le père Plantat hocha tristement la tête. « Si ce n'était que cela, dit-il. Mais il ajouta, rappelez-vous, monsieur, les allusions de la ripaille.
Le juge d'instruction, le père Planta et le docteur échangèrent un regard plein d'anxiété. Quel malheur frappait M. Courtois, cet homme si parfaitement estimable et si excellent en dépit de ses défauts. Était-ce donc décidément une journée maudite? Si la ripaille s'en est tenue aux allusions, dit M. Lecoq, j'ai entendu raconter, moi qui ne suis ici que depuis quelques heures, deux histoires très circonstanciées. Il paraît que cette mademoiselle Laurence, le père Planta interrompit brusquement l'agent de la sûreté. Calomnie ! S'écria-t-il. Calomnie odieuse ! Le petit monde qui jalouse les riches ne se gêne pas pour les déchirer à belles dents, faute de mieux. L'ignorez-vous donc ? Est-ce qu'il n'en a pas toujours été ainsi ? Le bourgeois dans les petites villes surtout vit, sans s'en douter, comme dans une cage de verre. Nuit et jour, les yeux de lynx de l'envie braqués sur lui l'observent, l'épient, surprennent celles de ses démarches qu'il croit les plus secrètes pour son armée contre lui. Il va, content et fier, ses affaires prospèrent, il a l'estime et l'amitié de ceux de sa condition, et pendant ce temps, il est vilipendé dans les classes inférieures, traîné dans la boue, sali par les plus injurieuses suppositions. Est-ce que l'envie respecte quelque chose? Si mademoiselle Laurence a été calomniée, fit en souriant le docteur Gendron, au moins a-t-elle trouvé un bon avocat pour défendre sa cause. Le vieux juge de paix, l'homme de bronze, comme dit M. Courtois, rougit imperceptiblement, un peu embarrassé de sa vivacité. Il est des causes, reprit-il doucement, qui se défendent seules. Mademoiselle Courtois est une de ces jeunes filles qui ont droit à tous les respects. Mais il est de ces abominations qu'aucune législation ne saurait atteindre et qui me révoltent. Il faut songer, messieurs, que notre réputation, l'honneur de nos femmes et de nos filles, sont à la merci du premier gredin, doué d'assez d'imaginative pour inventer une abomination. On ne le croira peut-être pas. Peu importe, on répétera sa calomnie, on la propagera. Qui faire ? Pouvons-nous savoir ce qui se dit contre nous, en bas, dans l'ombre? Le saurons-nous jamais? Eh, répliqua le docteur Gendron, que nous importe? Il n'est pour moi qu'une voie respectable, celle de la conscience. Quant à ce qu'on appelle l'opinion publique, comme c'est en réalité la somme des opinions particulières de milliers d'imbéciles et de méchants, Je m'en moque comme de l'an 40. » La discussion se serait peut-être prolongée sans le juge d'instruction qui, ayant tiré sa montre, fit un geste de dépit. « Nous causons, dit-il, nous parlons, et leur marche. Il faut nous hâter. Partageons-nous au moins la besogne qui reste. » Le ton impérieux de M. Daumigny glaça sur les lèvres de M. Lecoq quelques réflexions dont il attendait le placement. Il fut alors convenu que pendant que le docteur Gendron procéderait à l'autopsie, le juge d'instruction rédigerait son projet de rapport. Le père Plantat restait chargé de surveiller la suite des investigations de l'homme de la préfecture de police. Dès que l'agent de la sûreté se trouva seul avec le vieux juge de paix, « Enfin, dit-il, en respirant longuement comme s'il eût été soulagé d'une lourde impression, enfin, nous allons pouvoir marcher maintenant. » Et comme le père Plantat souriait un peu, il goba un carré de pâte et ajouta. « Arriver quand une instruction est commencée est déplorable, monsieur le juge de paix, tout à fait déplorable. Les gens qui vous ont précédé ont eu le temps de se faire un système, et si vous ne l'adoptez pas d'emblée, c'est le diable. » On entendit dans l'escalier la voix de M. Daumigny appelant son greffier qui, arrivé un peu après lui, était resté au rez-de-chaussée. « Tenez, monsieur, ajouta l'agent, voici monsieur le juge d'instruction qui se croit en face d'une affaire toute simple, tandis que moi, monsieur Lecoq, l'égal au moins de ce drôle de Gévrol, moi, l'élève chéri du père Tabaret, il ôta respectueusement son chapeau, je n'y vois pas encore clair. » Il s'arrêta, récapitulant sans doute le résultat de ses perquisitions et reprit. « Non, vrai, je suis dérouté. Je m'y perds presque. Je devine bien sous tout ceci quelque chose. Mais quoi ? Quoi ?» La figure du père Plantat restait calme, mais son œil étincelait. « Peut-être avez-vous raison, approuva-t-il d'un air détaché. Peut-être, en effet, y a-t-il quelque chose ?» L'agent de la sûreté le regarda. Il ne bougea pas. Il continua à offrir la physionomie la plus indifférente du monde, tout en relevant quelques notes sur son carnet. Il y eut un assez long silence, et M. Lecoq en profita pour confier au portrait les réflexions qui lui battaient la cervelle. « Vois-tu bien, chère mignonne, disait-il, ce digne monsieur m'a l'air d'un vieux finaud dont il faut surveiller attentivement les faits et gestes. Il ne partage pas, il s'en faut, les opinions du juge d'instruction. Il a une idée qu'il n'ose nous dire, et nous la trouverons. Il est malin, ce juge de paix de campagne. Du premier coup, il nous a devinés, malgré nos jolis cheveux blonds, tant qu'il a pu croire que, nous égarant, nous prendrions les brisées de monsieur Daumigny. Il nous a suivis, nous appuyant, nous montrant la voie, et maintenant qu'il sent que nous tenons la piste, il se croise les bras, il se retire. Il veut nous laisser l'honneur de la découverte. Pourquoi ? Il est d'ici ? A-t-il peur de se faire des ennemis ? Non, c'est un de ces hommes qui ne craignent pas grand-chose. Quoi donc ? Il recule devant sa pensée. Il a trouvé quelque chose de si surprenant qu'il n'ose s'expliquer. Une subite réflexion changea le cours des confidences de M. Lecoq. « Mille diables, pensait-il, et si je me trompais, si ce bonhomme n'était pas fin du tout, s'il n'avait rien découvert, s'il n'obéissait qu'à des inspirations du hasard, on a vu des choses plus surprenantes. J'en ai tant connu de ces gens dont les yeux sont comme les pitres de baraque. Ils annoncent qu'à l'intérieur, on contemple des merveilles. On entre, et on ne voit rien, on est volé. Mais moi, il eut un sourire, je vais bien savoir à quoi m'en tenir. » Et prenant l'air le plus niais de son répertoire, « Ce qui reste à faire, monsieur le juge de paix, dit-il tout haut, est, en y réfléchissant bien, assez peu de choses. On tient les deux principaux coupables en définitive, et quand ils se décideront à parler, ce qui arrivera tôt ou tard, si monsieur le juge d'instruction le veut, on saura tout. » Un seau d'eau glacée tombant sur la tête du père Plantat ne l'eût pas plus surpris, ne l'eût pas surtout surpris plus désagréablement. Comment ? Balbutia-t-il d'un air absolument abasourdi. C'est vous, monsieur l'agent de la sûreté, un homme habile, expérimenté, qui... Ravi de la réussite de sa ruse, monsieur Lecoq ne put tenir son sérieux, et le père Planta, qui s'aperçut qu'il était tombé dans un piège, se prit à rire franchement. Entre ces deux hommes savants, dans la science de la vie, d'un esprit également subtil et délié, pas un mot d'ailleurs ne fut échangé. Ils s'entendaient, ils se comprenaient. « Toi, mon bonhomme, se disait l'agent de la sûreté, tu as quelque chose dans ton sac. Seulement, c'est si énorme, si monstrueux, que tu ne l'exhiberais pas pour un boulet de canon. Tu veux qu'on te force la main ? On te la forcera. » « Il est futé, » pensait le père Planta. « Il sait que j'ai une idée. Il la cherchera. Et certainement, il la trouvera. » Monsieur Lecoq avait remis dans sa poche la bonbonnière et a portrait ainsi qu'il fait quand il travaille sérieusement. Son amour-propre d'élève du père Tabaret était émoustillé. Il jouait une partie et il est joueur. « Donc, s'écria-t-il, à cheval et rendez la main. » On a, dit le procès-verbal de monsieur le maire d'Orcival, trouvé l'instrument avec lequel on a tout brisé ici. Nous avons retrouvé, répondit le père Planta, dans une chambre du second étage donnant sur le jardin, une hache par terre, devant un meuble attaqué légèrement, mais non ouvert. J'ai empêché qu'on y touchât. Eh bien, vous avez fait, monsieur. Est-elle lourde, cette hache ? Elle doit bien peser 1 kilo. C'est parfait, montons la voir. » Ils montèrent, et M. Lecoq, aussitôt oubliant son rôle de mercier soigneux de ses vêtements, se coucha à plein ventre, étudiant alternativement et la hache, une arme terrible, pesante, en manche de frêne, et le parquet luisant et bien ciré. « Je suppose, moi, observa le juge de paix, que les malfaiteurs ont monté cette hache et ont attaqué ce meuble dans le seul but d'éparpiller les suppositions de l'enquête, pour compliquer le problème. Cette arme n'était certainement pas nécessaire pour enfoncer cette armoire qui ne tient à rien, que je briserai avec mon poing. Ils ont donné un coup, un seul, et posé la hache tranquillement. » L'agent de la sûreté s'était relevé et s'époustait. « Je crois, monsieur, dit-il, que vous vous trompez. Cette hache n'a pas été posée tranquillement à terre. Elle a été jetée avec une violence qui décèle un grand effroi ou une vive colère. Tenez, voyez ici, sur le parquet, ces trois marques qui se suivent. Lorsque le malfaiteur a lancé la hache, elle est tombée d'abord sur le tranchant, de là cette entaille, puis elle est retombée sur le côté, et l'envers, qui est un marteau, a laissé cette trace. Tenez, ici. » Sous mon doigt. Enfin, elle était lancée avec tant de vigueur qu'elle a fait un tour sur elle-même et qu'elle est venue de nouveau entailler le parquet, là, à l'endroit où elle est maintenant. « C'est juste, » murmurait le père Planta. « C'est très juste. »
Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.